compter d'aujourd'hui, et ce sera ainsi un vendredi sur deux, Roxane de la Sablonnière, PhD, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, sera avec nous pour faire des chroniques psychosociales. Ça me fait bien plaisir de l'accueillir en ce vendredi 25 février. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
Alors, bienvenue chez nous. On va faire plus ample connaissance, même si on vous a vu à Tout le monde en parle, qu'on vous lit à l'occasion dans les journaux, qu'on vous entend sur d'autres tribunes. Vous vous intéressez aux grands bouleversements sociaux et à leurs impacts chez les individus, les groupes et la société. Est-ce que c'est depuis longtemps que vous avez ces intérêts-là?
Oui, en effet, Hélène, ça fait depuis que je suis très jeune là, que j'ai débuté là, mes études au doctorat, que je me suis intéressée à ces questionnements-là. Très jeune, je suis partie au début de mon doctorat pour collecter des données avec 500 questionnaires. Je suis partie dans le Transsibérien pendant 3 jours de train dans une petite ville de la Sibérie.
Ah, oui.
Pour prendre le pouls de la population. Puis à ce moment-là, il y avait une crise économique. C'était quelques années après là, le démantèlement de l'URSS. Donc, les gens vivaient dans une pauvreté extrême et ils subissaient les répercussions de ces grands bouleversements. Ça m'a vraiment fascinée. Puis j'ai dédié là, ma carrière à cette problématique-là par la suite. Après mon doctorat, je suis partie. 2 années complètes au Kyrgyzstan, un petit pays de l'Asie centrale, puis en Mongolie aussi.
C'est pas nécessairement des destinations touristiques.
Non, ça change de Cuba, en effet.
Oui.
Oui, puis je voulais m'assurer que ce que je faisais en recherche, les questions que je posais aux gens, que ça cadrait vraiment avec leur réalité aussi, pas juste être dans une petite bulle là, universitaire déconnectée de la réalité des gens sur le terrain.
Alors, puis, ça nourrit beaucoup vos recherches, votre savoir.
Vraiment, puis c'est surtout les rencontres que je faisais. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Là,
bien oui.
Des grands-mamans, babushka en russe, comme on dit. Il y en avait une, elle s'appelait Zoya en particulier. Puis dans sa vingtaine, elle a été déportée au Kyrgyzstan de la Russie après ses études comme ingénieure. Elle est devenue chef ingénieure de sa ville. Puis au démantèlement du RSS, donc un statut très important, un bon salaire, donc ça fonctionnait bien pour elle. Puis quand il y a eu le démantèlement du RSS, ben, elle a tout perdu du jour au lendemain, toutes ses économies, plus de fonds de pension. Puis après ces longues journées de travail là, de 12 heures, 6 jours semaine, même parfois 7 jours semaine, elle devait aller vendre le journal local sur le coin de la rue pour pouvoir nourrir sa famille, ses enfants, tout ça. Donc pour moi, c'est des histoires comme ça qui m'ont inspirée. Essayer de comprendre plus comment les gens s'adaptaient dans ce type de bouleversement-là. Puis ça m'a amené aussi à travailler plusieurs années là, avec les Autochtones au Canada, et particulièrement là, les Inuits Unalaq aussi.
Et concernant cette grand-mère dont vous nous parliez, qui a eu tout un destin, est-ce que ça a un lien avec le changement social dramatique?
Oui, en effet, ben oui, parce que les gens là, subissent des grands bouleversements, puis c'est des bouleversements qui touchent vraiment tout le monde dans une société aussi. Donc, c'est ce type d'histoire-là qui m'ont inspirée là, à étudier la psychologie sociale tout au long de ma carrière par la suite.
Et Roxane, c'est quoi exactement la psychologie sociale?
Bien, la psychologie sociale, c'est vraiment fascinant, là. C'est d'essayer de comprendre l'individu dans son environnement social. Donc, c'est de comprendre ses pensées, ses relations avec les autres personnes, de comprendre les comportements aussi. Mais surtout, c'est de comprendre des choses qui parfois peuvent sembler incompréhensibles.
Ouais.
Puis c'est une discipline qui est née surtout, qui a pris beaucoup d'ampleur là après la Deuxième Guerre mondiale. Les chercheurs ils ont essayé de comprendre, mais pourquoi un seul homme, par exemple comme Hitler, est arrivé à mobiliser là, vraiment beaucoup de personnes, à commettre un génocide?
On pourrait penser à Poutine de ce temps-ci aussi.
Exactement, c'est l'exemple que vous m'avez volé, là.
Ah! Mais justement, désolée.
Non. Je taquine. Mais c'est vraiment ce type de questionnement-là. Pourquoi les nations entrent en conflit? Ça peut aussi être sur le plan interpersonnel, là, les questionnements qu'on a en psychologie sociale. Est-ce que c'est qui ça semble se ressemble ou bien les contraires s'attirent? Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là de manière scientifique. Puis finalement, bien évidemment, il y a tous nos processus plus internes. Qu'est-ce que je fais, par exemple, si je change de rôle, si je deviens parent ou grand-parent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Donc, c'est ce type de questionnement-là qu'on a dans la discipline de la psychologie sociale.
Et autre question, pourquoi étudier le changement social dramatique?
Bien, comme je disais, ça m'a vraiment toujours fasciné les histoires que j'entendais. Mm-hmm. Puis, il y a une citation d'Héraclite qui date de très, très longtemps, qui est vraiment à la source là, de mes réflexions depuis un certain temps. Donc, ça dit « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Cette citation-là signifie que le changement là est perpétuel. Il y a toujours du changement autour de nous. Mais pour moi, c'est un petit peu plus complexe que ça. Parce qu'un fleuve, ça peut couler comme subtilement ou plus lentement. Puis, donc, un peu comme le changement, hein, des fois, c'est subtil, on ne le voit pas trop. On ne sait pas trop si un événement se passe, est-ce que c'est vraiment un changement. Par exemple, dans un pays plus stable, s'il y a un changement de loi ou de gouvernement, ben, on ne se rendra peut-être pas vraiment compte qu'il y a eu un changement parce qu'il y a une certaine stabilité aussi dans notre fleuve ou dans notre société. Mm-hmm. Mais le changement peut aussi être violent, comme le courant d'un fleuve mouvementé. On parle de guerre, on parle de conflits entre des nations, comme l'Ukraine, la Russie en ce moment. Donc, il y a des ruptures qui se passent. En fait, des ruptures importantes dans la continuité d'un groupe. Entre le passé et le présent, il y a vraiment une coupure qui est nette et qui est marquante et qui va aussi dessiner le futur de ces groupes-là ou de ces populations-là.
Mmh. Et vous parlez de caractéristiques qui permettent de qualifier les changements sociaux dramatiques.
Oui, en effet, Hélène, selon une recension de la littérature scientifique, là, j'entrerai pas dans les détails, mais j'ai lu là, à peu près 5000 résumés scientifiques et plus de 300 articles pour essayer de vraiment comprendre et de bien définir qu'est-ce que c'est exactement le changement social dramatique. Donc, selon la recension là, que j'ai faite, qui est faite en 2017 en passant, avant la pandémie, parce que ça a toujours été un sujet d'intérêt pour moi. Donc, il y a quatre caractéristiques. La première chose, l'événement doit être rapide. Donc, tu sais, le terme, là, l'expression du jour au lendemain, là, on doit vraiment avoir une coupure marquée, un événement se produit, un peu comme le 13 mars 2020, lorsqu'on a tous été confinés en même temps, tous et tous confinés, mais il y a vraiment eu une coupure là, dans notre vie. Mais la rapidité toute seule, ça ne veut pas dire qu'il y aura un grand changement social ou un grand bouleversement. Parce que si, par exemple, on a un virus qui arrive, mais qui n'est pas trop virulent, il arrive rapidement là, quand même, ce virus-là, mais qui n'est pas mortel, il n'y a personne vraiment qui est affecté.
Ben, au début, on pensait ça, on se disait, on nous avait dit, ben, dans 3 semaines, on va retourner dans nos chaussures, là, puis tout va être correct.
Exactement, donc il n'y a pas nécessairement eu il n'y aurait pas eu, dans ce cas-là, les trois autres caractéristiques là, associées que je vais vous nommer maintenant. Donc, la deuxième, c'est qu'il y a une perturbation vraiment importante de toutes nos structures sociales. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Ben, c'est notre gouvernement, le système de santé ou d'éducation, l'économie. Donc, on l'a vu, hein, les hôpitaux ont été surchargés. Les écoles ont fermé, on s'est mis à faire du télétravail. L'économie, avec l'arrivée du virus en 2020, a été vraiment sérieusement ébranlée.
Ah,
beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Donc, c'est vraiment au niveau plus social, au niveau de la société là, qu'on observe ces perturbations-là. Mais on l'observe aussi chez l'humain, dans nos comportements. Donc, nos comportements ont brutalement été modifiés. Mm-hmm. On s'est retrouvés à la maison, les enfants avec nous autour, ou bien privé de nos petits-enfants si on en a, isolé de nos proches, même pendant des périodes super importantes comme Noël, ou bien si on vit un deuil ou des moments qui, normalement, on s'entoure de nos proches. On doit porter un masque en public aussi. Donc, sur le plan des comportements, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Finalement, la dernière caractéristique, on la nomme la menace au soi. Ça peut être notre soi qui on est personnellement ou au niveau du groupe. Donc, on est isolé des autres dans ce cas-ci. On peut se poser plus de questions aussi parce qu'on perd nos points de repère. Parce qu'en fait, Hélène, on a besoin des autres. C'est vraiment un besoin fondamental que l'humain a.
Oui, on est des êtres grégaires.
Exactement. On est des êtres grégaires. On a besoin des autres pour se développer, pour s'affirmer, pour savoir qui on est. Puis quand on en est privé, bien, ça peut avoir des répercussions importantes. Je vais vous donner l'exemple. Si on prend une adolescente qui est dans une équipe de hockey, puis que soudainement elle est privée de son équipe de hockey, bien, comment va-t-elle faire pour savoir qu'elle est bonne ou non au hockey si elle ne peut pas se comparer, par exemple, par rapport à ses collègues ou par rapport à d'autres équipes? Donc, ça, c'est un exemple concret. Mais si on se retrouve constamment privé des autres, bien, ça peut être très difficile de pouvoir répondre à nos questions oui. si on en a. Donc, on est dans un contexte ici qui est vraiment un contexte d'incertitude.
Parce que les autres jouent un rôle aussi de miroir?
Oui. Peuvent jouer un rôle de miroir, un rôle d'ancrage, un rôle de normalisation aussi. Donc, ça nous permet
c'est
de
important.
Nous situer. C'est
ouais.
vraiment très important.
Bien, ça tire à sa fin, mais je pense que vous aviez d'autres choses à nous dire concernant votre première chronique au Canalem. Ça
oui.
ça a bien passé jusqu'à maintenant, mais vous allez avoir d'autres sujets au fil de nos rencontres, Roxane.
Oui, oui, Hélène. Ben, en fait, si je peux me permettre, en terminant, je mentionnerai deux points par rapport au changement social dramatique. Vraiment de comprendre que c'est plus grand que nous. Puis, on utilise souvent là, la métaphore de la guerre. On est comme en guerre, mais même en guerre, dans un contexte de guerre, ben, on pouvait être avec nos proches, avec les autres. Donc, c'est vraiment quand même quelque chose de gros qu'on a vécu, même s'il n'y avait pas nécessairement un conflit avec,
ouais.
Tu sais, interethnique ou tout ça. Donc, c'est quand même quelque chose de gros. Puis, la première chose à faire pour bien aller, c'est vraiment de comprendre que c'est plus gros que nous. Finalement, je voulais juste vous dire que mes prochaines chroniques, là, si ça vous intéresse, ben, ils porteront sous le thème de la normalité, du retour à la normalité suite à cette pandémie-là. C'est au bout de nos lèvres, là, ce thème-là. Donc, est-ce que, premièrement, c'est possible? Qu'en est-il de la cohésion sociale? Donc, on pourra aborder ce type de questionnement-là ensemble là, dans les prochaines semaines.
Bien, avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous, Roxane de la Sablonnière, pour cette première chronique, puis il y en aura d'autres assurément. Et je rappelle que vous êtes professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. À la prochaine!
À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.